7. Quelle belle journée, hein ? S'extasia Gladys en l'entraînant dans le couloir au mur en parpaing. Ils passèrent devant sa chambre. Le couloir menait à une autre aile du bâtiment, encore des portes. Mais ils bifurquèrent à gauche, dans une sorte de vestibule face à un ascenseur. Luc, habituellement très doué pour entretenir une conversation polie, restait muet, certain que Nicky agirait de même à sa place. Les bestioles, en revanche, ah ! Gladys chassa des insectes imaginaires. N'oublie pas de t'enduire de répulsif, au moins jusqu'en juillet. Quand les libellules éclosent. Oui, exactement. Elle émit un rire chantant. Où on va ? Tu verras. Elle haussa les sourcils comme pour dire « Ne gâchons pas la surprise ». La porte de l'ascenseur s'ouvrit. Deux hommes en chemise et pantalon bleu en sortirent. L'un se prénommait Joe, l'autre Haddad. Tous deux avaient un iPad à la main. « Salut les gars !» dit gaiement Gladys. « Salut ma belle !» répondit Haddad. « Comment ça va ?»«
Très bien !»
gazouilla Gladys.
« Et toi, Luc ?» s'enquit Joe. « Tu trouves tes marques ?»
Luc ne répondit pas.
« Tu nous fais le coup du silence ?»
Haddad affichait un grand sourire.
« C'est pas grave, pour l'instant. Plus tard, ça sera peut-être différent. Je vais te dire un truc, Luc. Si tu te comportes bien avec nous, on se comportera bien avec toi. »
« Il faut marcher droit pour que ça marche, » ajouta Joe.
« Sur ces bonnes paroles ?»«
À plus tard, Gladys. »«
Pour sûr, tu me dois un verre. »«
Si tu le lis. »
Les deux hommes s'éloignèrent. Gladys fit monter Luc dans l'ascenseur. Il n'y avait ni bouton ni numéro. « B !» annonça-t-elle en sortant de sa poche de pantalon une carte magnétique qu'elle passa devant un capteur. La porte se referma. La cabine descendit, mais pas longtemps. « Vous êtes arrivé au niveau B !» susurra une voix féminine. Gladys agita sa carte de nouveau. La porte s'ouvrit sur un vaste hall éclairé par des dalles translucides au plafond. Des nappes de musique douce flottaient dans l'air. On se croirait dans un supermarché, pensa Luc. Plusieurs personnes allaient et venaient. Certaines poussaient des chariots chargés de matériel. D'autres transportaient un panier blanc qui semblait contenir des prélèvements sanguins. Sur chaque porte figurait un numéro, précédé de la lettre B. Une grosse organisation, avait dit Nicky. Un camp. Il avait certainement raison, car s'il existait un niveau B, la logique voulait qu'il existe également un niveau C, voire des niveaux D et E. On était tenté de croire qu'il s'agissait d'une installation gouvernementale, songea Luc. Mais comment pouvait-il cacher une telle entreprise, contraire à la loi et à la Constitution, qui reposait sur le rapt d'enfants? Ils passèrent devant une porte ouverte. Luc crut voir une salle de repos, avec des tables et des distributeurs, mais aucun écriteau « Veuillez boire avec modération ». Un homme et deux femmes étaient assis à une des tables. Habillés normalement, jeans et chemise, ils buvaient du café. Une des femmes, plus ou moins blonde, avait un visage familier. Sans qu'il puisse dire pourquoi tout d'abord, puis il se souvint d'une voix qui disait « Oui, tout ce que tu veux ». Les dernières paroles qu'il avait entendues avant de se réveiller ici. « Vous !» dit-il en la montrant du doigt. « C'était vous !» La femme ne dit rien. Elle demeura impassible. Mais elle le regarda fixement. Gladys ferma la porte.
« C'est elle, » dit Luc. « J'en suis sûr. »«
On est presque arrivé, » dit Gladys. « Ce ne sera pas long. Ensuite, tu pourras retourner dans ta chambre. Je suis sûr que tu as envie de te reposer. Les premiers jours, c'est parfois épuisant. »«
Vous ne m'avez pas écouté. C'est cette femme qui est entrée dans ma chambre. Et elle m'a aspergé le visage avec je ne sais quoi. »
Aucune réponse. Uniquement ce sourire enjoué. Que Luc trouvait de plus en plus flippant. On aurait dit un androïde dans un film de science-fiction. Ils s'arrêtèrent devant la porte B31.
« Si t'es sage, tu auras droit à 5 jetons. »
Gladys glissa la main dans sa poche de pantalon, d'où elle sortit une poignée de cercles en métal ressemblant à des pièces de 25 cents, ornées d'un triangle sur les deux faces.
« Tu vois ? Je les ai là. »
Elle frappa à la porte. L'homme tout de blanc vêtu qui vint ouvrir se prénommait Tony. Il était grand, blond et beau, si on faisait abstraction d'un léger strabisme. Luc trouva qu'il ressemblait à un méchant dans un film de James Bond. Peut-être le moniteur de ski charmeur qui est en réalité un tueur à gages.
« Bonjour, ma jolie. » Il embrassa Gladys sur la joue. « Ah, je vois que tu nous amènes Luc. Salut, Luc. »
Il tendit la main. Luc, imitant Nicky Willholm, l'ignora. Tony rit comme s'il s'agissait d'une excellente plaisanterie.
« Entre, entre. »
Gladys le poussa délicatement dans le dos et ferma la porte. Ce que Luc découvrit alors au centre de la pièce était inquiétant. On aurait dit un fauteuil de dentiste. Mais c'était la première fois qu'il en voyait un muni de sangles sur les accoudoirs. « Assieds-toi, champion, » dit Tony. Ce n'était pas mon petit, mais presque. Tony se dirigea vers un comptoir, ouvrit un tiroir qui se trouvait dessous et fourragea à l'intérieur, en sifflotant. Quand il se retourna, il tenait une sorte de petit fer à souder. Il parut surpris de constater que Luc n'avait pas bougé. Il le gratifia d'un grand sourire. « Assieds-toi, je t'ai dit. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Me tatouer ?» Il pensa aux Juifs à qui on tatouait des numéros sur les bras quand ils entraient dans les camps, à Auschwitz ou Bergen-Belsen. Une idée totalement ridicule, et pourtant... Surpris par cette question, Tony répondit en riant « Mon Dieu, non. Je vais juste te placer une puce dans le lobe. C'est comme se faire percer les oreilles, rien de bien méchant. Tous nos pensionnaires en ont une. » Luc recula.
« Je suis pas un pensionnaire, je suis un prisonnier, et vous ne me mettrez rien dans l'oreille. »
« Si, » répliqua Tony, sans se départir de son sourire artificiel. Il avait toujours la tête du type qui aide les enfants à prendre le téléski avant d'essayer de tuer James Bond avec une fléchette empoisonnée. « Ça ne fait pas plus mal qu'un pincement, alors sois gentil, assieds-toi dans ce fauteuil, ce sera terminé dans 7 secondes. Et Gladys te donnera une poignée de jetons. Si tu compliques les choses, je te mettrai quand même la puce, mais tu n'auras pas de jetons. Bon, tu en penses quoi ?
Je ne m'assoirai pas dans ce fauteuil. »
Luc tremblait de la tête aux pieds, mais sa voix était ferme. Tony soupira. Il déposa soigneusement son instrument sur le comptoir, s'approcha de Luc, les mains sur les hanches. Il avait adopté un air solennel, presque triste.
« Tu es sûr ?»«
Oui. » La gifle fit bourdonner ses oreilles avant même qu'il s'aperçoive que la main droite de Tony avait quitté sa hanche. Il recula d'un pas en titubant et regarda le géant blond avec des yeux écarquillés, remplis de stupéfaction. Son père lui avait donné une petite claque un jour parce qu'il avait joué avec des allumettes à 4 ou 5 ans, mais jamais encore il n'avait reçu une vraie gifle. Il avait la joue en feu et n'en revenait pas. « Ça fait beaucoup plus mal qu'un pincement à l'oreille, » dit Tony. Son grand sourire avait disparu. « Tu en veux une autre ? Ce sera avec plaisir. Tes petits camarades et toi, vous vous prenez pour les rois du monde, nom d'un chien. » Luc remarqua alors le léger hématome sur le menton de Tony et la petite entaille sur sa joue gauche. Il songea à la trace de cocard sur le visage de Nicky Wilhelm. Il aurait aimé être capable d'en faire autant, mais le courage lui manquait. En vérité, il ne savait pas se battre. S'il ripostait, Tony allait le rouer de coups. « Alors, tu veux bien t'asseoir dans ce fauteuil maintenant ?» Luc s'exécuta. « Tu vas te tenir tranquille ou je dois t'attacher ?»«
Pas la peine. »
Tony avait dit vrai. Le pincement à l'oreille était moins douloureux que la gifle. Peut-être parce qu'il s'y attendait ou parce que ça ressemblait plus à un acte médical qu'à une agression. L'opération terminée, Tony alla chercher une seringue hypodermique dans un stérilisateur. « Deuxième round, champion. »«
Il y a quoi dans cette seringue ?»«
Ça te regarde pas. »«
Si vous m'injectez ce truc dans le corps, ça me regarde. »
Tony soupira.
« Je t'attache ou pas ? À toi de choisir. »
Il repensa au conseil de Georges. « Ne gaspille pas ton énergie. »
« Non. »
« Bravo. Une petite piqûre et c'est terminé. » Sans être insoutenable, la douleur fut vive et Luc sentit son bras s'enflammer jusqu'au poignet, comme sous l'effet d'une poussée de fièvre très localisée. Puis la sensation de brûlure disparut. Tony colla un pansement adhésif sur son bras et fit pivoter le fauteuil. Luc se retrouva face à un mur blanc.
« Ferme les yeux. »
Luc obéit.
« Tu entends des bruits ? Quel genre ?
Cesse de poser des questions et réponds aux miennes. Tu entends quelque chose, oui ou non ?
Taisez-vous. Laissez-moi écouter. »
Tony se tut. Luc tendit l'oreille.
Quelqu'un vient de passer dans le couloir. Quelqu'un d'autre a ri. Je crois que c'était Gladys.
C'est tout ?
Oui.
Ok, très bien. Maintenant, tu vas compter jusqu'à 20 et tu ouvriras les yeux. Luc fit ce qu'on lui demandait.
Qu'est-ce que tu vois ?
Le mur.
Rien d'autre ?
Luc devina que Tony parlait des poings. Si tu les vois, dis-le, lui avait conseillé Georges. Si tu les vois pas, dis-le aussi. Ne mens pas. Ils savent.
Non, rien d'autre.
Tu es sûr?
Oui.
Tony lui donna une tape sur l'épaule qui le fit sursauter.
Ok, champion. On a terminé. Je te souhaite une très bonne journée.